Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Au menu d'Afrique 7 jours, aujourd'hui, un reportage sur le Faisan, région pétrolière du sud de la Libye, dont les habitants sont tentés de demander l'autonomie. Ensuite, Afro Press, la revue des thèmes africains parue cette semaine dans la presse allemande. Marie-Ange Piron est avec moi dans ce studio. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Fréjus.
Alors, une presse allemande plutôt très inspirée cette semaine.
Alors, il a été question, bien sûr, de Lampedusa, mais nous en avons parlé dans la revue de la presse vendredi. Sinon, le Kenya est à l'honneur. Il y a aussi Zanzibar et puis le Soudan et un barbier qui n'est pas de Séville, mais de Gizeh, en Égypte.
Merci beaucoup, Marie-Ange. Afropresse, rendez-vous dans la seconde partie d'Afrique 7 jours. Bienvenue à tous. Le Faisan, la région du sud libyen, est peuplée de trois ethnies différentes, les Arabes minoritaires, les Toubous et les Touaregs. Après des heurts sanglants en 2012, ces populations ont l'air d'avoir trouvé la paix. Elles apparaissent en fait unies face à un État central accusé de tous les maux, à commencer par son absence. Notre correspondante Marilyn Dumas est allée à la rencontre de quelques habitants de la région qui lui ont décrit leur quotidien.
Il n'y a pas de service éducatif, il n'y a pas de communication, il n'y a pas Internet, il n'y a rien du tout. Tous les services publics souffrent ici.
Ce constat, c'est Ibrahim Ahmad qui le fait, le chef du conseil local d'Agar, petit village arabe du district Toubou de Mourzouk, travaille avec les moyens du bord.
Nous essayons d'améliorer ça, mais le soutien financier est trop faible.
Première sur la liste des lacunes de l'État selon les habitants, la police semble invisible dans la région. À Sebba, la capitale du Faisan, le quartier pauvre de Kaïra n'a pas vu l'ombre d'un uniforme depuis la révolution de 2011. Adam Ahmed Dazi, le chef du quartier, constate.
On a un petit bureau ici pour les policiers, mais ils ne viennent jamais travailler.
Pour pallier à ce manque, Adam Ahmed Dazi a créé un groupe d'une soixantaine d'habitants. Ces bénévoles sont chargés de maintenir la sécurité avec leurs propres armes. Comme partout au Faisan, c'est donc le système D et les règles tribales qui fonctionnent.
Quand il y a un problème avec une personne, les premiers gens qu'on envoie pour l'arrêter sont les membres de sa tribu.
À Mashroua, quartier pauvre d'Oubari, ville Touareg à l'ouest de Sebba, certains habitants semblent atteindre le point de non-retour. Parmi eux, Boubaker, un jeune homme d'une vingtaine d'années, préfère taire son nom de famille.
Pas d'eau, l'électricité qui coupe tout le temps, rien du tout ici, il n'y a rien, juste les routes. Regardez les routes, pas de réseau, rien du tout, pas de service. Maintenant, tout est comme avant. Oui, il n'y a rien du tout, seulement nos attentes. Si nous voulons faire quelque chose, il va falloir prendre nos armes, nous battre à nouveau et casser ce gouvernement.
Isolée, oubliée et autonome de fait, la population du Faisan ne voit pas revenir l'argent du pétrole exploité sous ses pieds. Cela pourrait la pousser à se tourner vers le fédéralisme. Si cette idée est encore loin de faire l'unanimité, certains leaders tribaux l'envisagent déjà. Chef militaire de Mourzouk et Toubou respecté au sein de sa communauté, le colonel Barka est en contact avec les fédéralistes de l'Est. Mais avant de se prononcer, il souhaite lancer, avec les Touaregs, un ultimatum au gouvernement.
Nous sommes d'accord avec les Touaregs sur un certain nombre de points précis. Si ces demandes ne sont pas satisfaites par le gouvernement à Tripoli, nous revendiquerons un État fédéral. Nous demandons une représentation active au sein du gouvernement avec des ministres. Ensuite, nous voulons que le Faisan ait sa part dans les revenus du pétrole.
Si le fédéralisme reste un choix par défaut, la menace envoyée au gouvernement est claire. Et le colonel Barka n'hésitera pas à l'appliquer.
Si nous revendiquons un État fédéral, nous sommes convaincus que toute l'Afrique se joindra à nous. Cependant, nous savons qu'il y a des difficultés.
La première de ces difficultés est le pétrole. Extrait au Faisan, l'or noir est raffiné au nord. Marilyn Dumas, à Sebba, pour la Deutsche Welle.
Le moment est venu de voir avec vous, Marie-Ange Piron, quels sont dans l'actualité africaine les thèmes qui ont retenu cette semaine l'attention de la presse allemande. Et pour commencer, certains journaux reviennent sur l'attaque du centre commercial de Nairobi.
La Berliner Zeitung, par exemple, se fait l'écho des reproches adressés aux autorités kényanes qui n'auraient pas pris au sérieux les avertissements lancés par les services de sécurité. Le déroulement exact de l'attaque revendiquée par les Chebabs soulève aussi bien des questions, note le journal. La concertation aurait tourné à la cacophonie entre la police, qui a été la première à intervenir, et l'armée qui est arrivée plus tard. Le commandant d'une unité spéciale de la police aurait même été pris sous le feu de militaires. Il est aussi à peu près certain, poursuit le journal, que l'effondrement d'une partie du bâtiment n'a pas fait suite à un incendie allumé par les terroristes, mais à des tirs de bazooka. Les soldats auraient utilisé cette arme de gros calibre pour déloger des assaillants retranchés dans la chambre forte d'un supermarché. Et souligne le journal, dans cet article paru le 1er octobre, on ignore toujours combien de victimes sont encore ensevelies sous les décombres.
Et bref, Marie-Ange, beaucoup de questions sont encore sans réponse. Au sud du Kenya, Zanzibar, au large de la Tanzanie, est un paradis pour les touristes. L'île tient aussi à entretenir son image multiculturelle, mais les attaques contre les chrétiens se multiplient et c'est un sujet pour la presse allemande.
La Frankfurter Allgemeine Zeitung relate le drame vécu par un homme du nom de Sheikh Fadil Suleiman Soraga. Il a été totalement défiguré par une attaque à l'acide. Cela s'est passé en novembre dernier. Il n'est ni le premier ni le dernier à avoir été défiguré de manière aussi bestiale, écrit le journal. Depuis 2 ans, ce sont principalement des représentants d'institutions chrétiennes qui sont attaqués de cette manière, probablement par des membres d'un groupe qui se nomme Ouamcho et qui prétend combattre pour l'indépendance de Zanzibar. Ouamcho est un mot swahili qui signifie « réveil ». Les autorités de Dar es Salaam le classent dans la mouvance des Chebabs somaliens, ceux-là même donc qui revendiquent l'attaque de Nairobi. Mais poursuit le journal, Sheikh Soraga n'est pas un chrétien, c'est un musulman et pas n'importe lequel. C'est le bras droit du moufti de Zanzibar. C'est à lui qu'il revient, au nom du gouvernement semi-autonome de l'île, de veiller à la bonne entente entre les religions. Le groupe Ouamcho ne reconnaît pas son autorité.
Et puis malgré la répression, les manifestations n'ont pas faibli ces derniers jours au Soudan. Elles ont été déclenchées par la suppression des subventions pour le carburant. Le régime affirme qu'il ne reviendra pas sur cette décision, d'où le mécontentement d'une large frange de la population soudanaise, évoquée notamment par un quotidien suisse de langue allemande, Marie-Ange.
En l'occurrence, Fréjus, la Neue Zürcher Zeitung, un quotidien de Zurich qui parle de sanglantes manifestations au Soudan. Mais, précise le journal, à la différence des manifestations de l'année dernière, qui s'inspirait directement du printemps arabe, ce sont cette fois des travailleurs et des consommateurs qui forment l'avant-garde de la protestation. Elle a commencé à Médani, un centre agricole et industriel situé au sud-est de Khartoum, et s'est étendue entre-temps avec des milliers de manifestants à d'autres villes. Il faut dire qu'en l'espace de 2 ans, souligne le journal, les prix des carburants ont augmenté de 160%. La sanglante répression confère une dynamique supplémentaire à la colère populaire. Mais des fissures apparaissent aussi au sein du parti au pouvoir. Une cinquantaine de fonctionnaires du parti d'Omar el-Béchir ont demandé le rétablissement des subventions et l'arrêt des brutalités policières.
Plus au nord du Soudan, en Égypte, la répression continue contre les frères musulmans. Alors, ceux qui ne veulent pas attirer les soupçons sur eux se précipitent chez le barbier Marie-Ange. Vous l'annonciez dans le sommaire. Est-ce que vous allez... C'est bien ce que vous allez maintenant nous raconter après avoir lu un article du quotidien Die Welt.
Effectivement, Die Welt qui nous emmène à Gizeh, non loin du Caire, chez un barbier dénommé Wissam Ibrahim. Son salon ne paie pas de mine. Deux chaises datant des années 60 avec des appuis-têtes en constituent le mobilier. En temps normal, les deux chaises me suffisent, déclare Wissam, mais en ce moment, j'aurais besoin du double. Depuis un mois, le barbier de Gizeh est débordé par la clientèle. Jamais il n'a gagné autant d'argent. Il y a encore peu de temps, c'était pourtant l'inverse. Quand les frères musulmans étaient au pouvoir, dit-il, tout le monde voulait porter la barbe. Sa boutique était souvent vide. Depuis la chute de Mohamed Morsi le 3 juillet et la dissolution brutale des campements de protestation il y a 6 semaines, les hommes veulent se débarrasser de leur barbe. Rarement on a vu dans les rues du Caire autant de joues masculines rasées de près, écrit Die Welt. Sur certains visages, des emplacements plus clairs trahissent la barbe qui, il y a peu de temps, protégeait la peau du soleil. Certains préfèrent donc s'en tenir à une barbe de 3 jours, ajoute Die Welt.
On termine, Marie-Ange, par une nouvelle plutôt réjouissante. Selon le dernier rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la faim continue de reculer dans le monde. L'un des objectifs du millénaire, réduire de moitié d'ici à 2015 le nombre de personnes sous-alimentées dans les pays en développement pourrait être atteint. C'est en tout cas ce que veut croire un journal allemand.
La Frankfurter Allgemeine Zeitung se montre en effet très optimiste. Elle note que sur la période 2011-2013, le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde a été de 842 millions, soit 26 millions de moins que pendant la période 2010-2012. Les causes de cette amélioration peuvent paraître surprenantes, estime le journal. Ce sont la croissance économique et l'accroissement de la productivité agricole, mais aussi les prix relativement élevé des denrées alimentaires ces dernières années. La FAO donne l'explication suivante. Les recettes d'exportation de nombreux pays en développement, y compris pour les matières premières agricoles, ont augmenté et entraîné une hausse du pouvoir d'achat. Parallèlement, plus d'argent a été investi dans l'agriculture. Cela dit, le journal reconnaît quand même qu'en Afrique subsaharienne, les progrès sont encore modestes.
Voilà, c'est la fin de ce magazine Afrique 7 jours. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'était Marie-Ange Pierron et Fréjus Cunhomme. En attendant le prochain rendez-vous, bonne réception de nos programmes de la Deutsche Welle.